franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre. Bonjour. Et bonjour à tous. Deux actualités dominent ce matin. Deux actualités pour lesquelles on parle de succès. Succès en premier lieu avec l'arrestation de Salah Abdeslam. Succès ensuite avec la signature de l'accord unanime sur la crise migratoire entre la Turquie et l'Union européenne. Mais dans le premier cas, succès ne veut pas dire victoire. Et dans le second cas, il pourrait même signifier échec. Mais commençons donc par celui dont la photo est à la une de quasiment toute la presse ce matin, Salah Abdeslam. Arrêté hier en Belgique, après une cavale qui aura duré 4 mois, on l'a eu. Titre La Provence, reprenant la phrase du secrétaire d'État belge à l'immigration. Ils l'ont eu, confirme Nice Matin, alors que la Nouvelle République précise qu'Abdeslam a été capturé. Vivant, on notera en passant que les journaux n'ont pas tous la même façon de le qualifier. Pour le Courrier de l'Ouest, il est l'ennemi public numéro 1. Pour la Charente Libre, il est le suspect clé des tueries du 13 novembre. Pour l'Est Éclair, il est le probable 10e homme des attentats à Paris, logisticien des attentats, assure le Figaro. Tandis que Libération le présente comme le dernier membre présumé du commando. Finalement, c'est peut-être dans le Parisien qu'on lit le terme. Le plus clair, dans son éditorial, Donna Vidal-Revel évoque la capture d'un salaud. Bien sûr, écrit-il, la vie ne sera pas rendue aux 130 innocents des attentats de Paris et rien n'effacera la douleur psychologique et physique des victimes et de leurs familles, mais il est impossible de ne pas se réjouir de la capture d'un salaud. Portrait du dit salaud dans les colonnes du même journal. Un petit fumeur de shit devenu terroriste, terroriste flambeur, à bon de Libération, précisant qu'il y a 5 ans, il n'était connu ni de la justice, ni de la police. Sa vie à l'époque, c'était la fête, les boîtes de nuit, les belles fringues et les belles voitures. Et de la vie de ceux qui le côtoyaient à l'époque, c'était un garçon sans problème, si bien sûr on fait exception du trafic de drogue. Ce matin, toute la presse salue donc le succès des polices françaises et belges, succès incontestable des polices internationales, estiment les éditorialistes, se félicitant de l'étroite collaboration de services qu'on avait pourtant copieusement critiqué, un succès qui rassure, selon Christophe Bonnefoy dans le journal de la Haute-Marne, car, écrit-il, il confirme que les policiers antiterroristes n'ont pas relâché leur attention. Et maintenant, enfin arrêté, Abdeslam va devoir parler, titre à sa une Sud-Ouest, parler et répondre à la foultitude de questions que chacun continue de se poser. Comment les attaques se sont-elles préparées? Comment les réseaux s'organisent-ils? Pourquoi ne s'est-il pas fait sauter comme cela a été vraisemblablement prévu au départ? S'est-il dégonflé? Par ailleurs, dans sa fuite, de quelle complicité a-t-il bénéficié? Comment est-il passé à travers des souricières mises en place par la police? Et puis plus largement, qui sont ces islamistes fanatisés et surarmés? Il reste maintenant à lui extirper sa part de vérité, résume Philippe Parcacci dans l'Est républicain, tandis qu'Yves Tréhard note dans le Figaro que certes, on a envie ce matin de crier victoire, mais qu'il faut raison garder, tant la lutte contre le terrorisme est loin, très loin d'être terminée.
Un succès, mais pas une victoire, et surtout un jour, un procès.
Et c'est surtout cela qui compte pour les survivants et pour les proches des victimes des attentats rencontrés par le Parisien. C'est génial, voilà, exulte presque Sonia, rescapée de l'explosion dans le café Le Comptoir Voltaire. Ça veut dire que je l'aurai peut-être un jour en face de moi. Je ne voulais surtout pas qu'il meure, confie de son côté Robin, un rescapé du Bataclan. Ça aurait fait de lui un nouveau martyr. Et là, dit-il, j'espère que son arrestation va faire péter tout le réseau de Molenbeek. Le père d'une victime explique, lui, que la fin de la cavale d'Abdeslam va lui apporter une sorte d'apaisement. Mais d'autres se montrent, disons, plus pragmatiques. À l'image de Michel, dont le fils a été très grièvement blessé au Bataclan. Je suis content. Mais bon, il devenait risible que ce type échappe à toutes les polices. Et puis s'il est jugé, qu'est-ce qu'on apprendra, demande-t-il. On saura que c'est un méchant et puis c'est tout. Un méchant, un salaud, dont il faudra bien sûr assurer la défense dans Libération. On apprend qu'un avocat belge a été contacté. Il s'appelle Sven Marie et il a déjà déclaré qu'il attendait de savoir ce que comptait dire Salah Abdeslam. Si sa ligne de défense est de dire « je n'étais pas à Paris, je ne pourrais pas le défendre ». À propos de terrorisme, le Figaro nous raconte qu'en Afghanistan, les troupes de l'État islamique ont battu en retraite ces derniers jours. Attaquées par l'armée, les forces américaines et les talibans, elles viennent de perdre leur principal bastion, le Nangarhar, dans l'est du pays. Et puis, je ne saurais trop vous conseiller la lecture de la passionnante enquête publiée par Mediapart ce matin. Enquête sur le marché des Kalachnikovs de la Slovénie à Paris, où l'on apprend qu'un simple mécanicien disposant de matériel de garage peut aisément contourner les standards slovaques de neutralisation d'armes de guerre, où l'on apprend surtout qu'au nom de la libre circulation des marchandises, c'est Bruxelles qui a laissé prospérer en Europe ce funeste marché. Malgré plusieurs alertes des services spécialisés, la loi n'a jamais été modifiée. D'où le titre à la une du site « Les armes de la terreur ». La faillite de l'Europe.
Et c'est également cette faillite que dénonce Libération avec l'accord conclu hier entre l'Union et Ankara.
Un accord qui permet à l'Union européenne de renvoyer vers la Turquie, à partir de demain, dimanche, tous les migrants débarqués en Grèce, ce qui signe peu ou prou la fin du droit d'asile. L'accord a été conclu à l'unanimité. Officiellement, c'est donc un succès. Mais pour le quotidien, c'est l'accord de la honte. Les dégâts de ces négociations sont considérables, constate Jean Quatremer. La Turquie, au prix de son nouveau rôle de garde-frontière, obtient un blanc-seing des Européens. Le couple franco-allemand a sombré. Quant à l'Union, elle devient une forteresse fermée aux migrants économiques et aux réfugiés, priés de rester près du pays qu'ils fuient. Elle a abandonné l'un de ses principes fondateurs, écrit-il. Une faillite de l'Europe également illustrée dans la toujours très pertinente revue dessinée, à travers un flashback en bande dessinée sur les pires naufrages des mois écoulés et donc sur les réponses d'une Europe débordée qui ne sait qu'ériger des murs, sachant qu'il faut de l'argent pour construire des murs. Au sens propre, comme au figuré, ces 15 dernières années, l'Union a dépensé plus d'11 milliards d'euros pour expulser des clandestins et plus d'1,5 milliard d'euros pour la protection de ses frontières. Dans le même temps, on estime à 16 milliards d'euros ce qu'ont dû débourser les réfugiés pour payer leur arrivée sur le continent. Et si l'on additionne ces différents chiffres, ça fait donc 29 milliards d'euros que se sont répartis d'un côté les passeurs et de l'autre les compagnies aériennes et les industriels du secteur de la défense. Un juteux marché, mais un marché de dupes. Car pour les auteurs du dossier, il n'est que le prix d'un mensonge. Non, écrivent-ils, quoi qu'on fasse, on ne peut pas empêcher les êtres humains de circuler.
Dans les journaux, Frédéric, on parle aussi de la situation au Brésil.
Le Brésil en plein chaos, titre ainsi le Parisien. Le scandale Petrobras est en train d'embraser le pays. La chef de l'État risque la destitution alors que le retour au gouvernement de Lula met le feu aux poudres. Lire dans le Figaro le réjouissant billet d'Étienne de Montetti qui s'amuse de ce surnom, ce diminutif de Lula qui, sans être labial, appelle volontiers l'allitération telle que l'a célébré Loulipo. Voici, voilà, un libellé contre Lula. L'as-tu lu, Lula, le Luli de la Lambada, le lilas lumineux au milieu des loups, celui qu'on loua au lieu d'être lucide, l'homme est en train d'être littéralement lamentable. Il nous a leurré, l'inote que nous sommes, le lutin de la liberté, des depuis belle lurette, l'homme de la licence et du luxe. Hélas, c'est la kélos, le Brésil lésé s'est levé et se ligue contre un lascar devenu illisible. Pour Lula, c'est la lali. Alors, quel lendemain pour lui? La réponse dans les prochaines heures. En Russie, c'est une actualité dramatique qui fait la une ce matin. Le crash d'un Boeing en provenance de Dubaï qui s'est écrasé en tentant d'atterrir sur un aéroport dans le sud du pays. Il y avait 61 personnes à bord et toutes sont mortes, a indiqué le ministère des situations d'urgence, invoquant de mauvaises conditions météo. Et puis la presse russe se fait par ailleurs l'écho d'une conséquence inattendue des révélations de dopage concernant Maria Sharapova. Au début du mois, l'ancienne numéro 1 mondiale du tennis féminin a reconnu avoir été contrôlée positive au meldonium, médicament améliorant la résistance à l'effort. Et bien depuis cette confidence, les ventes de ce produit dopant ont doublé en Russie. Le directeur du groupe qu'il commercialise ne cache pas sa satisfaction. Les gens ont compris que si Sharapova l'utilise, ça veut dire que le meldonium a vraiment de l'effet pour nous. Ce scandale de dopage a été une excellente publicité. Enfin, un chiffre pour terminer. Le chiffre 2 presque 2 jours par an. C'est ce que perdent en moyenne les automobilistes de la région parisienne dans les bouchons. Estimation donnée par une étude des services d'infotrafic, étude à partir de laquelle Libération propose une cartographie des zones métropolitaines les plus engorgées. Avec 45 heures, quasiment 2 jours donc, la capitale arrive en tête et dans le classement elle est suivie par Lyon, Toulon, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Grenoble, Nantes, Rennes et Caen, top 10 des agglomérations où ça roule le plus mal en France. Alors oui, c'est du temps perdu, des heures perdues en voiture, même si dans les embouteillages on peut écouter la radio. Bonne route et bonne journée.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.